En fin de compte, c'est un thriller. C'est une tragédie, mais c'est un thriller.
Je ne sais pas ce que c'est un thriller. C'est un thriller, théoriquement, c'est destiné à faire peur. Alors oui, d'une certaine façon, je pense qu'on peut avoir peur en le voyant, j'en sais rien, ça, je suis mauvais juge, ça dépend des personnes. Ça avait été la réaction de Christine Lorrain quand elle l'avait vu, encore une fois, première fois où on a vu le premier bout à bout, elle a dit ça m'a fait peur. Mm-hmm. Et bon, et ça. Moi là-dessus, je ne peux pas être. Oui, il y a des séquences, il y a des moments où on joue même carrément un petit peu de façon. Mais presque comme un gag, les deux. Il y a deux, trois. Bon, ne serait-ce que la première scène, là, quand elle avance dans le couloir avec sa petite.
Comment on appelle ça ? Avec sa bombe lacrymo, quoi.
Oui, c'est pas une autodéfense. Voilà, c'est ça. Bon, c'est un peu.
Oui, là, c'est pas la fausse piste, mais quand même, on joue le jeu, là.
Oui.
Hein, c'est la séquence de l'aspirateur dans Marnie. Un peu ça.
Oui. Et puis après, ça devient réellement sérieux. Alors qu'avant, on ne sait pas, on pense qu'elle.
Mais déjà, ça fait des idées, en fait. L'idée de l'ADN fait très peur. C'est-à-dire que déjà, elle manipule quelque chose qui a à voir avec l'humain, la génétique.
Ah oui, mais ça c'est ce qui avait plu, parce qu'on s'était posé beaucoup. Moi j'avais envie qu'elle soit chercheuse, comme ça, pour sortir de toute façon tous les films où c'était soit des comédiennes, soit des personnes liées plus ou moins à l'écriture ou à la peinture, enfin, je sais pas, bref, plus des intellectuels, des artistes, enfin bon, intellectuels, oui, bien entendu. Mais et là, bon, j'ai eu envie qu'elle soit chercheuse, et puis ça me plaisait qu'elle soit chercheuse dans un bureau. Après, elle allait chercher la vérité. Bon, donc c'est un jeu de mots facile, mais pourquoi pas. Et donc, avec Sandrine, d'abord Pascal et Emmanuel, ils ont fait une petite enquête sur qu'est-ce qu'il y a actuellement, justement, quels sont les, dans une ville comme Paris, quels sont
les lieux
où il y a des recherches de pointe qui sont menées. Et il y avait d'autres possibilités. On s'est posé la question de, par exemple, les gens qui cherchent sur les supraconducteurs, les métros supraconducteurs. Donc on a été, il y a des machines très impressionnantes.
Les supraconducteurs, ça aurait été quelque chose.
Oui, mais c'était. Mais très vite, alors, quand on est arrivé à Curie, enfin, dans ce laboratoire, dans ce service du professeur Friedman, tout de suite, elle a eu envie de ça, parce qu'elle a dit quand même, bon, c'est ce personnage que je vais jouer, c'est quand même une femme, c'est une jeune femme, elle est plus sensible à quelque chose qui est lié à la vie et à la lutter contre les cancers et toutes les formes de...
D'immunologie.
Lutter contre le mal biologique, en quelque sorte, c'est ça qu'il a... Alors après, effectivement, on n'a pas réussi à le... Ou alors il aurait fallu y consacrer des...
Mais moi, j'ai trouvé
plus de temps, tant au tournage que dans le film, pour que ce soit... Donc on l'a sacrifié un peu.
Oui, c'est une piste qui aurait pu revenir. Mais
à un moment, c'était le reste bouffé, ça, le reste bouffé.
Moi, je trouve qu'elle est quand même maintenue par divers moments, notamment l'ordinateur chez Sandrine Bellu, chez Sylvie, qui a encore à voir avec de la recherche.
Ah oui,
et puis la bande-son, notamment la tessiture de la bande-son, quand on entend les bruits de guerre, on se demande quel trafic là, quand même, où elle est.
Bah, dans mon esprit, c'était très simple. Ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté très tard au mixage, pour des raisons, parce qu'on avait des pépins dans le son direct. En même temps, c'était des scènes, surtout la scène avec son amie de confidence. Oui. Elle était impossible à resynchroniser, enfin, me semble-t-il. Mm-hmm. Enfin, j'avais pas envie. Et donc, pour moi, c'est un bruit mystérieux. Parce que pour moi, c'est pas la même explication. Oui, c'est ça, c'est la télé des voisins, c'est la télé des voisins qui fait du bruit.
C'est la télé des voisins, mais en même temps.
Ah, ça passe, on passe des choses qui font bing-boum, oui, parce que c'est. Mais presque par hasard, puisque à partir du moment où on prenait la bande sonore d'un film, le plus simple c'était de prendre un film produit par Martine Marignac, par Pierre Grise. Et bon, voilà, justement, ce film d'auteur très récent, donc, oui, effectivement, il y avait. Alors, il y a la première fois, ça revient deux fois, la première fois, c'est effectivement une séquence contemporaine. Et par contre, la deuxième fois, avec Amia, où il y a des chevaux et tout ça, c'est le Moyen-Âge. Donc, on pourrait dire que c'est le retour de Jeanne Lapuce. Il y a des trompettes aussi.
Non, mais je trouve que ça joue là encore sur les deux tableaux.
Mais au départ, c'était vraiment purement... Oui, et puis aussi parce que c'était deux séquences, oui, c'est ça, et où, bon, d'une part, on avait ce petit problème de tac-tac-tac du travelling, oui. Dans les deux cas, puis c'est des mouvements très doux, et là, le travelling, parfois, quand on fait des mouvements très très doux, hein, fait des bruits très très aigus, et qui se prennent dans la parole, quand c'est entre les paroles, on peut les enlever, plus ou moins, mais dans les paroles, il n'y a rien à faire, parce que c'est trop dans les mêmes... moi j'y connais rien dans ces trucs là parce que maintenant avec le numérique on peut en parfois nettoyer mais il faut pas que ce soit quand même trop proche de la tessiture de la voix humaine.
Mais moi je trouve que la bande son est très forte dans le film parce qu'on entend le son des objets est inquiétant
et il y a une voilà, souvent c'est le son direct comme
oui
c'est le son direct purement simplement
je l'ai signalé d'ailleurs parce que j'ai trouvé que c'était une des bandes son les plus intéressantes que j'ai vues ou entendues ces temps-ci.
Elle est assez simple, on a ajouté assez peu de choses au mixage par rapport au dialogue. Bon, bien sûr, des petites choses par-ci par-là de nécessité ou de parfois pour colorer un peu plus, mais en général, toujours dans la sans que ce soit des éléments, à part ces deux moments de télévision qui sont volontairement perturbants, c'est des choses qui allaient toujours dans ce que. C'était sous-entendu par le son direct. Enfin,
Mais comme
compris les sons de labo.
Comme c'est ça parasite effectivement l'intérieur de Sylvie, ce son de.
Dans l'appartement, on n'a rien rajouté, à part justement les télévisions, on n'a rien rajouté.
On ne sait pas immédiatement, même si on y pense, donner comme la télévision. On peut se dire.
Non, il y a des gens qui croient que c'est le 14 juillet. Il y a des gens qui croient que c'est la première séquence, ils croient que c'est un feu d'artifice.
Je veux dire pas
le 14 juillet, parce qu'on a dit très peu de temps avant qu'on laisse passer, enfin non, ils peuvent l'avoir oublié que ce qu'on était début mai, mais enfin quelque chose comme ça, un feu d'artifice ou une fête de quartier, ils savent pas trop. Pourquoi pas d'ailleurs.
Moi j'étais tellement plongée dans l'ambiance du secret et du mystère que j'ai ressenti donc ce parasitage du son dans l'appartement de Sylvie comme des bruits de guerre. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on est?
Ah oui, oui, non, bien sûr, c'est des bruits de guerre.
C'est des bruits de guerre. Est-ce que c'est la télé à côté ou est-ce qu'il y a la guerre dehors? Et comme c'est secret défense et qu'en plus, vous en avez joué de ça, de secret défense, parce qu'il y a quand même un plan, on va parler de la ici, mais qui effectivement est un clin d'œil à secret défense. On se demande si on
parle à la guerre quand même. Pour moi, c'était nécessaire qu'on montre quand même que c'est pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce... Pourtant, il le dit, ce qu'il fait, Valser. Il le dit. Il le dit dans une phrase très brève, mais il le dit. Enfin,
vous... Oui, il dit ses secrets défense, c'est très simple.
Non, et puis ce qu'on a mal expliqué, enfin ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que c'est une boîte d'informatique quand même, une boîte d'informatique de pointe également, complètement. Et ça, c'est peut-être pas clair pour...
C'est curieux, ça s'appelle Europax.
Pax Industrie.
Pax Industrie.
Non, il n'y a pas l'Europe.
C'est
lui qui parle de l'Europe.
C'est lui qui parle de l'Europe, voilà, c'est ça.
C'est à plusieurs reprises, il parle du marché européen.
Voilà.
Il en parle avec Sandrine, il en parle après, quand il est devant son dictaphone.
C'est ça, et c'est Pax Industrie, il parle de l'Europe. Et moi, j'ai trouvé que, on se demande, mais où est-ce qu'on est là encore? Enfin, moi, sur moi, ça a marché comme ça, je me suis demandé s'il n'y avait pas... Un complot, parce que quand même, avec Jacques Rivette, je me suis dit,
il y a
peut-être un complot.
Non, il n'y a aucun complot. C'est une usine d'informatique qui travaille pour le ministère de la Défense. Donc là, il le dit, le guidage des missiles, à un moment.
Voilà.
Il le dit très rapidement, mais il le dit quand même.
Donc je me suis dit,
ils ont un contrat exclusif avec le ministère de la Défense pour le missile qui équipe sous-marin, je ne sais pas quoi.
Mais là, quand même, c'est assez drôle, c'est que ça s'appelle Pax, ce qui évoque plutôt la paix.
Oui, mais c'est le père qui s'appelle Pierre-André, donc il a pris ses initiales et il a rajouté X.
Il
faut bien qu'on s'amuse d'eux aussi quand même.
Quand même
il avait un humour noir, le père, c'était pas n'importe qui, d'ailleurs tout le monde le dit que c'était quelqu'un de très séduisant, ce père, qui finalement atroce et tout, mais qui avait donc beaucoup d'humour, beaucoup de... Il a quand même fasciné tous ses
collaborateurs.
Tous ses collaborateurs, sa femme, ses enfants et tout.
Alors, le père, justement.
Moi, je ne le connais pas.
Vous ne le connaissez pas.
Mais je pense que c'était quelqu'un de très, très fort, de très.
Mais avec l'air du temps, moi, je l'ai trouvé très, très machiavélique, en fait. C'est-à-dire que. Je ne sais pas, pas machiavélique, non, c'est pas très
machiavélique.
Mais on ne sait pas trop, en fait, même dans l'aveu de Françoise Fabian.
Ah bon, comment ça s'est passé en détail, on n'en sait rien, moi je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, d'ailleurs, c'est trop... Ouais.
Parce que entre la... D'abord, moi, j'ai pensé, comme il y avait l'affaire du trou, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Non, et puis, en fin de compte, après, c'est pas du tout ça dont il s'agit.
Pas du tout.
Et c'est un marché.
Oui, oui, bah c'est dit.
C'est un marché.
C'est un contrat.
C'est un contrat. Et là, on est effectivement dans une ténébreuse affaire, de nouveau. Et alors, là, effectivement, le mystère est révélé, mais pas complètement... Dans la mesure où, effectivement...
En plus, je l'ai volontairement coupé dans la scène entre ça fait partie des coupures. En fait, elle était plus... C'était plus des... Françoise Fabian parlait beaucoup plus. Oui. Et j'ai... Au montage, dès le premier montage, j'ai coupé certaines phrases.
Oui, il y a plus explicatif.
Et encore, après le mixage, j'ai encore recoupé une phrase qu'elle disait. Oui. C'était plus... Oui, c'était mieux. Non, je voulais surtout... garder ce principe que c'était Sylvie elle-même qui pratiquement disait tout, que la mère ne disait que le minimum pour la lui faire comprendre, mais sans explication, sans commentaire, surtout sans commentaire. Et là, il y avait des commentaires, c'était pas bien, et je les ai enlevés. Ça lui a enlevé beaucoup de... C'était pas dans son caractère de faire des commentaires là-dessus.
Françoise Fabian est elle-même assez porteuse de mystère. Donc,
Ah oui,
c'est un personnage qui va très très bien là aussi. Bah, moi je trouve que toutes les comédiennes et les comédiens sont formidablement, mais moi je pense que là il y a quand même une direction, parce que même si vous dites sans les comédiens, moi je...
Ah oui, non mais ça c'est mieux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, là, le travail le plus important de la mise en scène, c'est justement celui qu'on fait. Bon, là, Sandrine, c'était dès le départ, c'était à partir de conversations avec elle et avec le désir de faire un autre film avec elle, qui soit différent de Jeanne. Mais sans ça, après, c'est justement en fonction de Sandrine, en fonction de... Très vite, ça, je me souviens lui avoir parlé de Grégoire dès que je l'avais... Comme ça, quand on ne savait pas encore quelle histoire on allait raconter. Donc très vite, Grégoire, qu'est-ce qu'il pouvait être par rapport à elle, si ce n'est un jeune frère. C'était très vite pour moi évident qu'il était son jeune frère. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec... Donc son jeune frère, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé, qu'elle s'est retrouvée dans la peau d'Alette. Si on reste, est quand même beaucoup plus jeune que... Enfin, il a... Je sais plus... Oui, ça doit être dit assez précisément dans Sophocle, la différence d'âge entre deux. Par Alette, est la seule de toutes les histoires... Du matériel là, mythologique ou pas. Là, c'est pas forcément mythologique, puisqu'il n'y a pas les dieux, n'interviennent pas directement, mais enfin, légendaires, sur lesquels donc travaillaient les tragiques grecs, c'est la seule histoire dont on ait la version par les trois.
Oui.
Puisque c'est l'histoire d'Électre, c'est la deuxième partie de l'Orestis, c'est-à-dire les coéphores, c'est Électre de Sophocle, et il y a aussi une Électre de Répile, que personnellement j'aime pas beaucoup, que je trouve assez faiblarde. Et puis là, on a beaucoup pensé à celle de Giraudoux, c'est-à-dire que je connais très bien, que j'ai beaucoup lu quand j'étais adolescent. Je ne sais pas si vous la connaissez, la version de Giraudoux. Et c'est de Giraudoux, ce qu'on a repris et à laquelle j'ai très vite pensé, c'est lui, il nous donnait l'autre personnage, puisque dans Égis, c'est un personnage qui est une silhouette dans Ischille, qui intervient tout de plus dans Sophocle, mais quand même pas beaucoup. Dans ici, il est important, Égiste, mais à la fin de la première partie d'Agamemnon. Il termine Agamemnon après avoir tué justement Agamemnon. Mais par contre, dans la deuxième partie, dans les coéphores, il fait que passer avant de qu'on dise qu'il a été zigouillé en coulisses. Et alors que dans Sophocle, son rôle est un peu plus important, mais quand même, dans la pièce de Sophocle, est entièrement sur l'affrontement entre Électre et sa mère, et Clytemnestre. Et au reste, d'ailleurs, déjà disparaît, beaucoup moins important que dans le récit normal. Et dans la pièce d'Euripide, elle est beaucoup plus confuse, elle est sur l'idée. Et je ne me souviens plus très bien ce qui s'y passe. Enfin, elle ne m'a pas intéressé du tout. Il n'y avait rien d'intéressant à y prendre, elle n'est pas... Mais par contre, la pièce de Giraudoux, qui a pris certaines choses, Euripide, il a pris l'idée que justement, pour se débarrasser des lettres, Clytemnestre et Égiste veulent la marier. Pour qu'elle cesse d'être cette espèce de vierge redoutable, donc on la marie. Et là, elle est effectivement mariée, elle se retrouve mariée à un paysan, là, dans Euripide, mais le paysan, il a quand même respecté la princesse et le mariage reste n'a pas été consommé. Mmh. Voilà. Et donc ça aussi, Giraudoux l'a gardé, mais ça reste au stade du fiançailles. À la moitié de la pièce, le fiancé est renvoyé. Il n'y aura pas de mariage. et ce, par contre, ce qui est très important dans la pièce de Giraudoux, c'est le personnage d'Égiste. Et en gros, c'est une pièce en deux actes. La première partie, c'est Électre face à Clytemnestre, comme dans Sophocle. Et la deuxième partie, c'est Électre face à Égiste. Mm-hmm. Et Égiste qui veut que Électre le reconnaisse comme ayant raison. Ayant raison, d'une part, d'avoir tué le père, qu'il méritait bien, ce qu'en gros dit Valser, ça, justement, on l'a pris. Mais ça va plus loin, mais là, on ne pouvait pas garder. Avoir raison, qu'il est effectivement, par les épreuves qu'il a subies, par etc., par tout ce qui lui est arrivé, qu'il est devenu digne d'être à son tour le roi de la ville. Mm-hmm. Comme autant et plus que ne l'était Agamemnon, celui qui l'a tué. Ça, c'est très important dans la pièce de Giraudoux. Et ça, c'est complètement, c'est absolument pas dans les pièces grecques. Mm-hmm. Peut-être que c'est dans des Électres intermédiaires que j'ai pas lu, parce qu'il y en a, je crois qu'il y en a une d'Alfieri, je me demande s'il n'y en a pas une de Hébel ou un auteur de ce genre-là, enfin, bon, tous ces auteurs-là que je n'en connais que le nom.
Pas du tout.
Alfieri, c'est un dramaturge italien de la fin du XVIIIe qui est très important dans la littérature italienne. Ouais. Et du courant XVIIIe, je crois, qui pour les Italiens est leur grand dramaturge. Mmh. Et qui a repris souvent tous les thèmes tragiques. Donc, mmh. Je crois que c'est très possible qu'il ait fait une lettre. Très possible qu'il ait fait une lettre.
Alors, sur les mécanismes du destin, puisqu'il ne s'agit pas de destin, je crois qu'il s'agit quand même de responsabilité. Je veux dire, elle met les pieds dans cette histoire, Sylvie, donc c'est à elle ensuite de savoir où elle va. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que les éléments ensuite qui se mettaient en place, notamment le revolver qui vous a été, je crois, pas mal reproché, moi j'ai trouvé ça très bien, au contraire, notamment celui que leur Marsa, qui est rangé dans le tiroir. Voilà. Et voilà, celui de Paul. Et ça, j'ai trouvé que c'était très. Justement, c'est là où je dis, il me semble que dans
le revolver, c'est l'épistolet. Voilà, c'est un pistolet. C'est une faute que je fais moi aussi, tout le temps.
Voilà, c'est un pistolet. Moi, j'avoue, je ne connais pas grand-chose dans les armes. Mais ce que j'ai trouvé bien, et c'est là où je pense qu'il y a un énorme respect du spectateur, c'est que c'est jubilatoire. À la fois, on se demande ce qui va se passer, et puis on se dit, mais. Parce que c'est évident que ça va arriver. Et justement, c'est là où j'étais pas très contente en lisant le truc de Lebec, c'est que je me dis, il prend les gens pour des imbéciles. Parce que je pense que le jeu, là, il est simple, et en même temps, moi j'ai trouvé ça jubilatoire et passionnant. C'est-à-dire que je me dis, bon là, on me donne les éléments, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Parce qu'à la limite, ce qui va se passer, peu importe qu'on le devine, mais c'est comment ça va se passer? C'est comme le verre de lait dans Notorious, je crois.
Non, c'est dans Soupçon.
C'est dans Soupçon. Voilà. C'est exactement ça. C'est parce que c'est vraiment ce verre, il est au premier plan, il est gros, il est énorme, on le voit. Et le pistolet, là, c'est pareil. Et je trouve que c'est justement une complicité avec le spectateur et un respect du spectateur, me semble-t-il. Vous avez pensé que le spectateur devinerait ou s'y attendrait?
Oui, non, je pense dans ces cas-là que c'est que certains le font et d'autres pas. Parce que c'est
pas d'importance.
Oui, non, que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est encore une fois, d'essayer de garder un minimum de clarté.
Joie du clavecin, plaisir d'amour, c'est Anna Karina qui chante. Ici, dans la religieuse de Jacques Rivette, aux côtés de la mère supérieure, Liselotte Pullover, à qui nous osons dire ici, ce jeu de mots très godardien, Lise, ôte ton Pullover. Voilà donc un petit rappel de ce film magnifique, La religieuse, qui n'est pas sans rappeler la structure de Secret Défense, par, je dirais, son classicisme, sa limpidité, sa simplicité, et souvenez-vous, la religieuse fut une des grosses affaires de censure, stupide, bête, comme l'est toute censure d'ailleurs. À l'époque du gaullisme, M. Bourges, Yvon Bourges, et M. André Malraux, malheureusement, Malraux, oui, l'auteur de l'espoir, que voulez-vous, eh bien, firent interdire cette religieuse de Jacques Rivette, un très beau film, ma foi, auquel je n'ai pu résister là encore de faire un petit clin d'œil. Et nous retrouvons Jacques Rivette dans ses propos libres, un petit peu au fil de l'eau, comme ça, au fil du grignotage, parce que nous étions attablés, c'est le cas de le dire, et j'espère que les auditeurs goûtent le plaisir que moi j'ai eu à m'entretenir avec Jacques Rivette, un grand cinéaste, ma foi, qu'il faut découvrir et redécouvrir. C'est pourquoi je vous recommande d'aller voir Secret Défense, qui passe encore sur les écrans. Il n'est pas trop tard pour ceux qui ne l'ont pas vu d'y aller faire un tour, notamment au Balzac et au Trois-Luxembourg, et puis dans d'autres salles en banlieue. Voilà, nous retrouvons Jacques Rivette pour cette suite et fin de cet entretien autour du film Secret Défense avec Sandrine Bonner, Jerzy Radivilovitch et Laure Marsac. Nous en étions avec Jacques Rivette à préciser ce chapitre autour des lettres, puisque l'histoire de l'Electre, d'après les tragiques grecs et la pièce de Giraudoux, ont inspiré librement Secret Défense. Nous retrouvons Jacques Rivette.
Oui. Bah, on se pose la question, qu'est-ce que baisse le test grec, tellement ça a peu de rapport souvent. Ouais,
ouais. Ben oui, parce que la langue... moi, il me semble, j'ai lu Eschyle, il me semble que Eschyle, ça me semble passionnant, parce qu'il y a une ossature que je trouve très forte. C'est l'ossature, c'est le squelette, je
dirais. Oui, mais en même temps, la langue est difficile, parce que c'est totalement... c'est une langue d'incantation perpétuelle.
Oui, mais moi, j'aime
bien l'incantation. Ah oui, je ne dis pas, mais c'est difficile à traduire, en tout cas. Alors que Sophocle, c'est du dialogue très, très moderne, déjà, très... c'est lui qui a mis au... Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui l'a mis au point, parce qu'il manque trop de choses du théâtre grec pour qu'on sache, mais quand même, ce principe que Corneille a tellement repris, après, ça a un nom... mon rhétorique que j'ai oublié et que je vous épargne, de un verre, enfin, quand les personnages toquent un verre, hop, hop, que Corneille a beaucoup repris presque de façon, et ça, c'est dans Sophocle déjà, oui. C'est dans Sophocle, alors que c'est pas du tout dans Eschyle, où chaque fois, c'est des tirades, c'est des où le cœur a autant d'importance que les personnages, presque, et c'est davantage des grands monologues, des grands chants, des grands... Et après peu. Alors que Sophocle, c'est le dialogue déjà souvent très moderne, enfin, qui pourrait être presque compris.
L'histoire me semble assez limpide, et en même temps, la manière dont elle se termine, on se dit que Laure Marsac pourrait, et ensuite entre Laure Marsac et Jerzy Radivilovitch, il pourrait y avoir une suite.
ça c'est pas vrai.
Quelle chance.
Oui, oui, parce que là, ils sont vraiment mal partis.
Ils sont très mal partis.
Ils sont très mal partis, parce que c'est, il semble difficile de faire disparaître le corps de Sylvie après avoir déjà fait disparaître celui de Véronique, etc. On a parlé un petit peu entre nous. Mais plutôt, oui, c'est après, c'est pas effectivement, c'est plutôt Trouble où ils arrivent, ou je sais pas quoi.
Donc, ça pourrait continuer, ça pourrait... Ah,
ça peut toujours continuer, moi, d'avoir fait tout le monde.
Mais je trouve que l'histoire continue à marcher dans l'imaginaire, dans mon imaginaire, elle a fonctionné très fort, même si je pense
surtout qu'il y a quand même dans un coin, et Geneviève et son fils, qui théoriquement sont ensemble à ce moment-là, puisque quand on... En fait, on avait filmé la scène de Paul chez Geneviève, et puis on l'a coupé. On l'a coupé parce qu'elle n'ajoutait rien au film.
Mm-hmm. Il y a un personnage que je trouve très beau, c'est Marthe.
Oui.
C'est un personnage qui est à la fois maternant et puis en même temps elle en veut à Sylvie, parce qu'elles ne sont pas du tout du même horizon social à l'origine. C'est curieux cette relation. Et là encore, dès qu'on est arrivé dans la maison, c'est vrai qu'il y a l'univers des films de Rivette, ça pour moi c'est vrai. Dès qu'il y a une maison, une grande maison comme ça, elle suscite des imaginaires. Alors là,
moi ça me plaît bien de filmer des maisons, parce que c'est... c'est toujours comme un territoire à explorer, donc on peut toujours penser que, bon, on jouait là-dessus dans la dernière partie de Out, carrément comme un gag, que derrière chaque porte, il y a une sombre histoire, que si on ouvre la porte, on va déboucher sur... c'est un titre magnifique. C'est presque un plus beau titre que le film, parce que c'est pas le meilleur film de Fritz Lang.
C'est un beau film.
Oui, c'est un beau film, en fait, qui est un peu...
C'est un film que j'aime bien. Enfin,
ah oui, moi aussi, je l'aime beaucoup.
Mais
je préfère les Fritz Lang plus, peut-être moins ambitieux, parce que quand il fait Big Hit, c'est une commande, alors que Secret derrière la porte, c'est un choix qu'il avait fait lui, puisque c'est une maison de production qu'il avait fondée avec John Bennett et le mari de John Bennett, pour faire... et puis ça a été un échec total et ça s'est arrêté là.
La porte est un beau titre, et c'est vrai que, dans vos films en tout cas, derrière les portes, il y a des choses très beaux, toujours. Bon, la maison de Céline et Julie, il y a même... Un film que j'aime beaucoup, c'est L'amour par terre, La maison de l'amour par terre. C'est une maison qui est étonnante.
Ah oui, mais là on en avait franchement fait un personnage. On s'était amusé même beaucoup avec le décorateur à faire des pièces très théâtralisées de toutes les façons possibles et imaginables.
Ouais. Non, c'est un beau film, L'amour par terre. Là encore, c'est bon.
Là, par contre, il y a une version beaucoup plus longue que celle que vous connaissez, qui n'est jamais sortie. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait de copie disponible, parce que c'est un film qui dure 3 heures aussi, La mort par terre.
Moi, je l'ai vu dans l'intégrale. Il y a eu une intégrale.
C'était la version de 2 heures, forcément. D'accord. Je crois pas. C'était où? C'était dans quel cas?
C'était au quartier Latos, c'était soit au 3 Luxembourg, soit une petite salle qui est près du film.
Mais il y a déjà plusieurs années, alors. Je me souviens pas. Ah oui, peut-être pour le festival d'automne, non, c'était pas lié au festival d'automne.
Ils ont tout passé, ils ont passé Nous le vent.
Ça devait être lié au festival d'automne, peut-être. J'avoue que je m'en étais pas mêlé.
Ils ont même passé Nous le vent, ils ont tout passé.
Ouais. Hein.
Moi j'ai pas pu aller tout voir,
ça devait quand même être la version, celle qui est sortie à l'époque, qui dure 2 heures juste. Alors qu'en fait, il dure 2h50, exactement la même durée que...
Que Secret Défense,
même si ça n'a pas grand rapport.
Non, parce que là,
on
n'est plus dans le théâtre. Enfin, le théâtre, c'est pour ça que je disais, c'est plus un thriller. C'est au sens, thriller au sens large, au sens où Kiss Me Deadly est un thriller, mais c'est un thriller métaphysique, je trouve, Kiss Me Deadly, en fin de compte, parce que c'est le sens de la vie, ce sont des choses aussi importantes que ça, qui sont dans Kiss Me Deadly saisies, je trouve que c'est un film profond, et je trouve que c'est le cas de Secret Défense. Je trouve que c'est le cas de beaucoup de films.
Qu'est-ce que Buzz et le test grec, tellement ça peut le rapport souvent.
Ouais. Oui, parce que la langue... j'ai lu Échille, il me semble que Échille, ça me semble passionnant, parce qu'il y a une ossature que je trouve très forte. C'est l'ossature, c'est le squelette, je dirais.
Oui, mais en même temps, la langue est difficile parce que c'est totalement. C'est une langue d'incantation perpétuelle. Okay. Et il n'y a que 30 ans d'écart, c'est ça, que ça a été très vite le théâtre. C'est ça qui est très curieux, c'est que quand on a l'impression qu'il y a un énorme écart entre Eschyle et Euripide, et c'est vrai, et ça s'est passé en 60 ans.
Oui.
Soit dit, la tragédie française, c'est pareil, c'est très bref. Entre le Cid et Phèdre, il n'y a pas beaucoup de choses avant, il n'y a pas beaucoup de choses après. Il y a 30 ans.
Oui.
Non, 40. Voyons. 36, non, non, 30 ans, 30 ans. 35, disons en gros de 35 à 75.
Alors, moi je trouve que c'est presque une histoire, enfin je ne vais pas dire une histoire immortelle, mais c'est une histoire qui pourrait continuer, Secret Défense. Moi je dirais, plutôt que la suspension sur le vide, je trouve que l'histoire est presque un. C'est pour ça que je parlais j'ai dit c'est un peu le mélange de la boîte de Pandore et puis de quelque chose de la tragédie de l'Orestie, enfin de la mythologie de l'Orestie. Mais c'est la chose qui peut se continuer, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une suite.
Je la ferai pas. J'ai pas l'idée pour la suite. Non,
mais je le dis dans la mesure où on peut la continuer nous-mêmes, cette histoire. Moi, je suis sortie de la salle en ayant une impression de plénitude, d'abord d'extrême plaisir à avoir vu le film. L'histoire me semblait assez limpide et en même temps, la manière dont elle se termine, on se dit que Laure Marsac pourrait, et ensuite entre Laure Marsac et Jerzy Radziwiłłowicz, il pourrait y avoir une suite.
C'est
terrifiante.
Oui, parce que là, ils sont vraiment mal partis.
Ils sont très mal partis.
Ils sont très mal partis, parce que ça semble difficile de faire disparaître le corps de Sylvie après avoir déjà fait disparaître celui de Véronique, etc. On en a parlé un petit peu entre nous.
Quand même.
Mais plutôt, oui, c'est après, c'est plutôt Trevalouézari ou je sais pas quoi.
Donc ça pourrait continuer, ça pourrait.
Ça peut toujours continuer, à moins d'avoir fait tout le monde.
Mais je trouve que l'histoire continue à marcher dans l'imaginaire. Enfin, dans mon imaginaire, elle a fonctionné très fort. Même si je pense
surtout qu'il y a quand même dans un coin et Geneviève et son fils qui théoriquement sont ensemble à ce moment-là, puisque en fait on avait filmé la scène de Paul chez Geneviève et puis on l'a coupé parce qu'elle n'ajoutait rien.
Il y a un personnage que je trouve très beau, c'est Marthe.
Oui.
C'est un personnage qui est à la fois maternant et puis en même temps elle en veut à Sylvie parce qu'elles sont pas du tout du même horizon social à l'origine. C'est curieux cette relation. Et là encore, moi, dès qu'on est arrivé dans la maison, c'est vrai qu'il y a l'univers des films de Rivette, ça pour moi c'est vrai. Dès qu'il y a une maison, une grande maison comme ça, elle suscite des imaginaires. Alors là,
oui, moi ça me plaît bien de filmer des maisons.
Oui.
Parce que c'est. Oui. Bah, c'est toujours comme un territoire à explorer, donc on peut toujours penser que, bon, on jouait là-dessus dans la dernière partie de Out, carrément comme un gag, que derrière chaque porte, il y a une sombre histoire, que si on ouvre la porte, on va déboucher sur. Oui, c'est un titre magnifique.
Oui.
C'est presque un plus beau titre que le film, parce que c'est pas le meilleur film de Fritz Lang.
C'est un beau film.
Oui, c'est un beau film, enfin, qui est un peu.
C'est un film que j'aime bien. Enfin,
ah oui, moi aussi, je l'aime beaucoup.
Non, mais c'est un.
Mais je préfère les Fritz Lang plus. Peut-être moins ambitieux, parce que quand il fait Biggit, c'est une commande, alors Secret derrière la porte, c'est un choix qu'il avait fait lui, puisque c'est une maison de production qu'il avait fondée avec John Bennett et le mari de John Bennett. Et puis ça a été un échec total et ça s'est arrêté là.
C'est curieux à propos de Biggit, j'ai vu un film l'autre jour très curieux à la dernière séance que j'ai regardé, je l'ai enregistré par hasard, un film de Jerry Hooper avec Gloria Graham.
Oui, j'ai vu que c'était annoncé, je me souviens pas si je l'ai vu.
C'est totalement, à mon avis, Biggit, j'ai regardé immédiatement les dates. Biggit, c'est 53. Oui. Et, parce que de toute évidence, il y a des mutilations physiques, elle s'en prend. Elle se fait battre. C'est Jean Barry qui lui flanque des torgnoles. Elle est mutilée. Alors là, c'est pas la cafetière brûlante comme dans Bigitte. Et il y a des réminiscences de Bigitte dans tout le film. Par ailleurs, c'est un film réussi.
Et c'est avec Gloria Graham aussi.
C'est Gloria Graham, c'est Jean Barry. Et je sais
que... J'ai dû le voir à l'époque, parce que je crois qu'il était sorti. Je crois qu'il était sorti en France, j'ai dû le voir, mais j'en ai
aucun souvenir. Gloria Graham a un rôle, comme d'habitude, merveilleux. Elle chante, elle interprète une chanson qui est d'une manière très très belle, très... C'est un personnage, c'est complètement le personnage. À mon avis, il avait vu Bigitte, qui est à mon... Alors, la différence, c'est que Bigitte, évidemment, est un film qui questionne l'Amérique et l'institution policière. Alors que
mais c'est aussi, Bigitte c'est quoi c'est mais le studio c'est Columbia ou c'est Universal, je ne sais jamais, je les confonds, je sais jamais, je les confonds toujours, c'est deux studios.
Ouais, je me rappelle.
C'est Columbia je crois, depuis que Gloria Graham, je crois que c'était Columbia
c'est
toujours.
Columbia.
Parce que souvent c'est les studios hein, qui à l'époque faisaient quand même, reprenaient même souvent les mêmes scénarios.
Ah là j'ai été très épatée. Puis bon, le personnage de Gloria Graham, battu à ce point, un peu comme l'imagine d'athlète dans Le Monde Compte, c'est exactement la même trame. Elle meurt aussi sur une espèce de toit comme ça. C'est un film très curieux. Par ailleurs, il avait une certaine efficacité d'une petite série B. En plus, un réalisateur que je ne connaissais pas du tout. Bref, peu importe. Bon, ça, c'était une digression. Bon, mais Le Secret à la Porte est un beau titre, et c'est vrai que dans vos films, en tout cas, derrière les portes, il y a des choses très lourdes. Toujours, bon, La Maison de Céline et Julie, il y a même un film que j'aime beaucoup, c'est L'Amour par Terre, La Maison de l'Amour par Terre. C'est une maison qui est étonnante.
Ah oui, mais là, on en avait franchement fait un personnage. Oui, puisqu'on n'a jamais. Là, on s'était amusé, même beaucoup avec le décorateur, à faire des pièces très théâtralisées de toutes les façons possibles et imaginables.
Ouais. Non, c'est un beau film, L'Amour par Terre. Là encore, c'est bon.
Là, par contre, il y a une version beaucoup plus longue que celle que vous connaissez, qui n'est jamais sortie.
Ah, ça, j'aimerais bien.
Malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait de copie disponible parce que il dure, en fait, c'est un film qui dure 3 heures aussi, La Mort par Terre.
Moi, je l'ai vu dans l'intégrale. Il y a eu une intégrale.
Oui, mais c'était la version de 2 heures, forcément. D'accord. Je crois pas. C'était où? C'était en quel cas?
C'était au quartier latin, c'était soit au 3 de Luxembourg, soit une petite salle qui est près du Luxembourg.
Mais il y a déjà plusieurs années, alors.
Ça doit être
en... Je me souviens. Ah oui, peut-être pour le festival d'automne, non, c'était pas lié au festival d'automne.
Ils ont passé Hurlevent,
ça devait être lié au festival d'automne peut-être. J'avoue que je m'en étais pas mêlé.
Ils ont même passé Mirigourand, ils ont tout passé. Moi j'ai pas pu aller tout le port parce que
ça devait quand même être la version, celle qui est sortie à l'époque, qui dure deux heures juste. Alors qu'en fait il dure 2h50, exactement la même durée que Secret Défense, même si ça n'a pas grand rapport.
Non, parce que là, on n'est plus dans le théâtre. Enfin, le théâtre n'a plus de... C'est pour ça que je disais, c'est plus un thriller. C'est au sens... Thriller au sens large, au sens où Kiss Me Deadly est un thriller, mais c'est un thriller métaphysique, je trouve, Kiss Me Deadly, en fin de compte. Parce que c'est le sens de la vie, ce sont des choses aussi importantes que ça, qui sont dans Kiss Me Deadly saisies. Je trouve que c'est un film profond. Et je trouve que c'est le cas de Secret Défense. Et je trouve que c'est le cas de... Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup vos films. Ça,
Moi, je suis pas complètement content. Dans mon enfant, vrai que je le revois de L'Amour par Terre. On a beaucoup cherché. C'est la première fois que je travaille avec Pascal. Mais il est arrivé en cours de route avant. J'avais déjà travaillé avec Suzanne. C'est un scénario. J'avais commencé à travailler dessus avec Suzanne Schiffman avant. Et puis, ça n'en arrive à rien. Mais elles deux, elles sont formidables. Même si elles avaient un tout petit peu. Enfin, c'est le reproche qui a été fait à l'époque, qui n'était pas tout à fait faux, qu'elles avaient quelques années de plus que les personnages. Bon. Mais bon, chacune des deux a une telle juvénilité que ça... Mais les personnages masculins ne sont pas très intéressants. Enfin, ils sont ratés. On les a ratés. Enfin, Dussolier est très bien. Jean-Pierre, c'est pas Jean-Pierre Calfon qu'il aurait fallu pour le.
fait, après coup, j'ai pensé, c'était Sami Frey qu'il aurait fallu pour ce personnage. Ah, oui. Parce qu'il aurait, il aurait été plus mystérieux. Il aurait été, enfin, et puis, je sais pas, on n'a jamais. Et puis en plus, à la fin, on ne l'a jamais vraiment trouvée. La fin qui est dans le film actuellement, elle a été faite au dernier moment parce qu'on avait, prévu une fin beaucoup plus compliquée, trop compliquée. Et la comédienne qui n'a fait aucune carrière, qui joue le rôle de la femme donc du personnage de Calfon qui a disparu, je ne sais plus comment il s'appelle, Béatrice, je crois. Au départ, c'était Maria Schneider. Puis finalement, elle a fichu le camp, elle n'a pas voulu, pour deux raisons. Bon, avec Maria, passons. Et on a engagé cette jeune comédienne un peu à la légère. Elle a pas été, on s'est rendu compte au tournage qu'elle... ça marchait pas vraiment bien, et plus le tournage avançait, plus elle paniquait. Et donc on a complètement changé la fin qui était beaucoup plus sur son personnage à elle, qui devenait un personnage très important à la fin. On a tout changé sur le tournage même, des trois âges, plus le fait que c'était trop compliqué, qu'il fallait terminer, il restait deux nuits pour terminer le tournage, pour boucler la dernière séquence qu'on avait gardée pour la fin, on avait vraiment gardé pour la fin toute la dernière séquence de la nuit avec les invités. Et bon, on avait.
Il y a du côté exterminateur un peu.
Oui. Bah nous aussi on y pensait. Alors là, c'était encore plus au tournage, encore plus. C'était l'engin exterminateur. surtout à 5h du matin. Enfin plutôt non, parce que là c'était le moment où les oiseaux se mettaient à chanter. Même avant, c'est saloperie d'oiseaux là. Là ils chantent dès 4h. En juin ils chantent dès 4h du matin. Ils chantent. Oula. Bon, passons. Et donc il fallait simplifier. On a complètement. Oui. Schématiser toute la fin, mais finalement on a eu raison d'ailleurs, parce que l'autre elle était trop compliquée, elle voulait rien dire avec cette comédienne qui n'était pas à la hauteur.
Oui, c'est à dire, moi je trouve que enfin,
donc il y a eu beaucoup de problèmes en fait sur ce tournage.
Un film dont j'ai
un souvenir. Ah non, moi je l'aime bien, mais ça n'a pas été un film sans.
Tout du long,
il n'y avait pas un vrai sujet. Il y avait un point de départ qui était amusant, cette histoire du théâtre d'appartement et que l'auteur dramatique décide donc de le faire chez lui. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors après, on a...
Le milieu est un personnage central.
Oui, c'est pourquoi on a beaucoup développé le décor, parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui...
Moi, je trouvais que ça fonctionnait très fort.
Et là, on a carrément fait un décor... en tout cas invivable, parce que pour vivre, passer ses jours et ses nuits au milieu de toutes ces couleurs là,
c'est un peu.
Il y a des gens qui vivent dans des endroits bizarres parfois, mais
c'est un peu, mais je sais pas pourquoi, j'ai le souvenir, j'associe bien que ça n'ait pas grand chose à voir avec la grande pièce d'écrit sur du vent. Bizarrement. Il y a un haut central comme ça.
Oui, ah bah oui, à cause de la construction, à cause de la. Oui, sauf qu'il n'y a pas dans l'écriture du vent, c'est l'escalier qui est circulaire, qui est dans tous les films de la Universal de l'époque. On le voit dans.
Oui.
Et alors que là, au contraire, c'est un escalier central qui partait comme ça, et puis ensuite.
Oui, mais
il était au contraire droit et avec les deux. Et partant des deux côtés ensuite. Central et partant des deux côtés.
Oui, il
est
bien un personnage.
Ah oui, bien sûr. En plus, il avait été. Il était peint, il était en rouge et noir, si je me souviens bien.
Ouais. Des questions sur lesquelles j'avais envie, j'ai lu ce
qu'il y a
dans les annales.
Allons-y.
Et sur Minelli, mon Kimitch. Et j'étais un peu.
Choquée.
Oh non! Non.
En tout cas, certainement, beaucoup de gens le sont.
Non, mais j'avais...
D'ailleurs, je trouve que c'est pas très clair. Enfin, sûrement, Kevich, je change pas de mot. Sur Minelli, c'est pas très clair, je trouve. Mais bon, c'est difficile de trouver les...
Parce que, en fait, que vous disiez que Preminger est un directeur, moi, ça fait aucun doute pour moi.
Oui.
C'est sur la politique des auteurs, en fait. Vous revenez un peu sur Walsh, Minelli, Mankiewicz. Vous dites que Mankiewicz, c'est un producteur et pas du tout un auteur.
Ah non, je ne dis pas que c'est pas un auteur.
Ah, c'est un auteur.
Je dis que c'est un auteur que j'aime pas. Non, c'est que c'est pas un metteur en scène du tout. Par contre, si, d'une certaine façon, c'est un auteur, puisqu'il est auteur quand même, au sens, comment dire, plus banal, mais pas au sens.
C'est surtout la parole qui bouge dans Mankiewicz, c'est une oralité comme ça, qui est parfois un peu étouffante, surtout dans Ève. Qui fait très
Mais Ève, c'est justement celui qui, quand je l'ai revu, comme je le dis rapidement avec Juliette Berthaud, pour un projet qu'on avait qui ne s'est pas fait, qui était un projet qu'on avait avec Jeanne Moreau, qui était très compliqué, trop chiant. Bon, et dont la première scène reprenait le principe de la première scène de Ève, qui elle-même reprend la première scène d'une pièce de Cocteau pas très connue et pas très bonne qui s'appelle Les Monstres Sacrés. Qui n'est pas une bonne pièce, une pièce que Cocteau avait écrite pendant la drôle de guerre sur le principe que les acteurs masculins étant de jeunes, étant mobilisés, donc ils pouvaient écrire que pour des actrices et des personnages masculins âgés. Donc il a écrit une pièce là-dessus, dont le début, dont le premier acte est assez réussi, et ça commence comme Ève, c'est pareil, c'est la jeune fille qui vient dans la loge de l'actrice, etc. Et puis ensuite il y a un trick, en effet, avec... Sauf que dans la pièce de Cocteau, je crois que quand elle vient, il intrigue avec l'amant de la comédienne est déjà en route, je ne me souviens plus. Ben, bref, alors que dans Ève, ça sera la suite de l'histoire.
Mais moi j'ai trouvé par exemple, enfin je maintiens par exemple un film comme le fantôme de Madame Nuire, il me semble un très bon.
Bah je l'ai revu aussi et j'ai été également. Mais je le trouve, ne sais pas que j'aime beaucoup tout le début là comme ça quand c'est. C'est bien sûr, moi j'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup Jane Tierney, la photo est magnifique, c'est un des. Mais c'est des grands. Mais c'est des films de studio, c'est des grands. À la Fox il y avait des opérateurs quand même, et c'était. Tout le monde en bénéficiait. Et bon, Jane Tierney, Nathalie Wood qui fait sa fille, etc. C'est Rex Harrison, moi, que je trouve insupportable de toute façon dans ce film. Enfin, pas dominé du tout. Alors là, quand j'ai revu justement, il y a moins longtemps, il y a une quinzaine d'années, je l'ai revu même avec une amie qui voulait le voir et qui. Bon. Et je savais que ça allait me faire le même effet que F. Moins gravement, parce que c'est pas un film aussi important pour. Quand Ève était sortie, c'était le début des cahiers, d'ailleurs je crois que c'est pratiquement, ça correspond à un des tout premiers numéros des cahiers du cinéma, avant même qu'on y écrive, où il y avait Ève, justement une photo de Bette Davis sur la couverture. Donc c'était vraiment à l'époque où on avait tous évidemment été très admiratifs, les films très... Moi je trouve ça... Je peux pas dire autre chose que ce que j'ai, dit dans Les Inrocs. Je trouve ça très habile sur les scénarios. Mm-hmm. Bon, parfois un peu systématique, mais pourquoi pas. Les dialogues, je les trouve souvent très complaisants, mais enfin pourquoi pas également. Mais que c'est, je trouve ça épouvantable sur la façon dont c'est découpé et dont les comédiens sont dirigés de façon tellement sur leur convention, enfin je trouve. Alors bien sûr que Bette Davis fait des choses magnifiques, etc., que ceci, que cela, mais ça, c'est des morceaux. C'est pas, il n'y a pas le regard unificateur qui fait que c'est complaisant. En même temps, il est très content de lui tout le temps. Voilà, c'est ça aussi finalement profondément ce que je reprocherais à Mankiewicz, c'est qu'il est tellement content de ce qu'il de lui et de ses jeux de mots et de ses grands acteurs et de ceci et de cela que il n'y a aucune critique de ce qu'il est en train de faire, je trouve.
Non, c'est vrai qu'il est immergé dans le...
Il est content, il est... Je ne sais pas, il s'auto-satisfait de son... de son côté brillant et tout. Mais même pas, je veux dire, on pourrait dire aussi ça de sa Guitry, et moi j'adore sa Guitry. Mais sa Guitry, ce qui sauve tout, c'est qu'il joue aussi lui-même, voilà, c'est pourquoi d'ailleurs, c'est quand c'est pas lui qui joue, ça beaucoup plus, c'est certainement beaucoup plus fragile, les pièces de... Encore que j'en ai vu une ou deux de ça et qui ont été filmées là récemment, bon, bien sûr, c'est pas les... Il y a des choses qui passent quand même.
C'est un voleur, c'est...
Ah oui, mais oui, bien sûr, il jouait plus parce qu'il était trop, là, il pouvait plus, il était trop fatigué, je crois, trop, puisqu'il marchait plus. Je crois que...
Mais c'est vrai que ce sont deux cinéastes de l'oralité.
Oui, mais il y a une générosité chez Guitry, je trouve qu'il n'y a pas chez Mankiewicz, il y a quelque chose de...
cynique et puis...
À la fois, il est plus cynique, mais en même temps, je suis sûr qu'il est profondément plus... justement, dans la mesure où il est plus cynique, il est moins... Il n'est pas... Il y a une humilité. Il y a une... Je ne sais pas, enfin non, le mot humilité n'est pas juste, ne dis pas, il y a une...
Il est peut-être pas méprisant pour les personnes.
Il y a une générosité qui n'y a pas chez Mankiewicz, alors que je trouve... alors ça se voit encore plus dans les derniers films qui sont épouvantables, quand même, qui sont indéfendables, les derniers films de Mankiewicz. Oui, ça, tout ça là, où c'est purement alors là de la C'est du ficelage de misanthropie facile, comme son adaptation de Volpone, comme de toute façon c'est un faux bon sujet Volpone. Mais...
Et alors Minelli, moi c'est un cinéaste que j'aime beaucoup.
Mais moi aussi, par contre Minelli, lui c'est pas un méchant, ça c'est sûr. C'est, au contraire, c'était quelqu'un, je pense, de trop gentil pour être vraiment metteur en scène. Il faut un petit peu de méchanceté quand même. Et puis non, c'est quelqu'un, ça.
Donc,
c'est
pas Charlie, il est pas gentil.
Ça dépend du scénario aussi beaucoup. J'en ai aucun souvenir de ce scénario. Je vais dire les comédies, j'en ai aucun souvenir parce que.
Moi justement, je trouve que. Enfin, moi, Minelli, c'est les mélodrames apparemment sur lesquels vous êtes.
Je serais plus indulgent pour les mélodrames, oui. Surtout pour les comédies musicales, mais c'est très collectif, les comédies musicales, certes, c'est un top, simplement, ils sont très bien faits. Quand c'est lui qui est aux commandes, ça, bien sûr, que c'est très bien filmé, que c'est ça sur ça, il était. C'était un grand professionnel de la caméra et de.
Mais je trouve qu'il y a. Quelque chose de la disharmonie du monde, du chaos du monde chez Minelli, qui est, le monde est coupé en deux chez lui. Entre l'imaginaire et le réel, il y a ça se
passe. Oui.
Et ça, donc, que ce soit notamment.
Mais c'est pas. Mais c'est vrai, mais c'est pas. Comment dire. C'est pas.
Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui.
Mais ça reste. C'est deux éléments qui restent posés. Ça reste posé. Ça n'est pas repris dans justement ce que j'appelle, dans un terme effectivement très vague, mise en scène. Ça n'est pas dialectisé. Ça n'est pas. Ça reste comme ça, quelque chose de posé. De même que sur un tournage, sans doute, j'ai jamais assisté au tournage de Minelli, mais je ne connais plus la personne qui ont été ou qui ont travaillé avec lui. Et il passait son temps à. Regardez tout ce qui était dans le décor à changer, une fleur, à ceci, cela, etc. Tout était posé, tout était en place, et c'était à peine si après les gens avaient le droit de bouger là-dedans.
Oui,
il est raté celui-là, il est raté. Alors que c'est une comédie musicale magnifique, ça vient de Broadway directement, et c'est très proche de la comédie. Je ne sais pas si vous connaissez les enregistrements, c'est après ça la comédie musicale qui à Broadway a lancé. Love et Lerner, qui après ont fait My Fair Lady. Et elle est très très belle. Et là, c'est rigoureusement le filmage de la comédie musicale tel que Broadway. Alors là, il y a des chansons en moins, c'est tout, il y en a un peu moins. Et encore, ils en avaient tourné.
Par exemple, dans.
Le pirate, il y a Kelly là qui fait bouger les choses.
Et alors, ce que
là, par exemple, à Kelly, c'est quelqu'un qui avait une invention. Leslie Caron a toujours dit qu'un Américain à Paris, le metteur en scène, c'était Jim Kelly. Je crois que les rôles étaient très partagés. Minelli s'occupait de la caméra, des décors, de tout ça, tout ce qui était les couleurs et tout. Et Kelly s'occupait des comédiens et tout. Et pirate, c'est pareil. Alors là, le pirate, c'est pareil, c'est d'autant plus. Moi, j'avais jamais vu un film pas très bon de la métro, il s'appelle Encore the Way, avec Kelly et Sinatra. Vous l'avez vu? Et là, il est ressorti, donc je l'avais jamais vu. C'est un film tout à fait mineur, mais qui est intéressant parce que justement, c'est Kelly en 45 qui a encore tourné très peu de choses à la métro. Il a fait 2 ans qu'il est sous contrat, mais en plus, il a. Et là, quand Kelly est là, c'est évident que toutes les idées sont de lui. Et il y a des choses qui annoncent, il y a carrément une séquence qui annonce le pirate, carrément, qui annonce même sur la façon dont ça bouge. Et ça n'a rien. Alors, quand il n'est pas là, alors le film n'est rien. Le film n'est rien. Quand, dès qu'il n'y a plus d'idées, la caméra est figée, etc. Et quand Kelly est là, c'est évident que c'est lui qui apporte toutes les idées. Non, il avait.
A tendance picturale, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu figé. Plastique.
Non, c'est un décorateur. Enfin,
un décorateur.
C'est un maniériste. Un maniériste avec tout ce que ça comporte de. C'est pas du tout péjoratif, maniériste. Enfin, je veux dire, il y a des très grands. Dans la peinture, il y a des peintres maniéristes qui sont tout à fait intéressants. Mais bon, c'est quand même pas celui-là qui me touche. Mais ce qui me touche, c'est le Titien ou Caravage.
Oui.
Il y a un maniériste. Et c'est pourquoi justement à la métro, lui, à la métro ou d'autres, dans d'autres studios, à la Warner, je sais pas quoi, ils étaient très à l'aise. Parce que ils étaient prêts à filmer un jeune comédie musicale, le lendemain un mélo, le surlendemain une comédie, de même que les maniéristes, les peintres maniéristes italiens du 16e ou du 17e, ils faisaient différemment une naissance de une adoration des mages, une pietà, ou ceci, cela, ou le prince, etc. Tout leur était bon. Alors que le Caravage, quand il choisit de faire la mort de la Vierge, il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et Manierich, non. Et Minelli, non. Il ne se pose pas la question, qu'est-ce qui se passe? Il se pose la question, qu'est-ce que, dans quel décor ça se passe?
Parce qu'il y a des films inédits, justement, que je trouve beaucoup plus intimes. Je pense par exemple à un film comme Il faut marier papa, qui est une comédie
aucun,
jambeau.
Aucun souvenir, oui. Aucun ça, souvenir. C'est ça, ceux-là qui m'ont laissé totalement indifférent.
Et
Glenn Ford. Oui, oui, je les ai vus, mais alors là, ils m'ont tous laissé totalement indifférent.
C'est un film complètement équilibré, complètement coulé du point de vue du dynamisme, là, il n'y a pas de tendance plastique un peu posée, comme il y a, je le reconnais parfois chez Minelli, mais qui, à mon avis, vient de cette espèce de schizophrénie dans le monde, cette incapacité qu'il a à réunir le monde dans ce qu'il voudrait que le monde soit, et le monde tel qu'il le représente ou tel qu'il est.
Le monde, pour lui, c'était pas difficile, c'était les studios de la MGM. Je crois que sorti des plateaux de la MGM, il était très perdu, le pauvre homme.
Décidément.
Ah non, je l'ai jamais rendu, j'ai juste entrevu comme ça une ou deux fois, il était tout à fait touchant. C'était un homme, pas grand, tout très effacé, très timide, qui arrivait à peine à parler. Arrivait à peine à parler tellement les mots ne sortaient pas de sa bouche. Enfin, je veux dire, il était pathétique, il était. Et certainement tout à fait délicieux et tout, invivable en même temps.
Ou ça, ça c'est. Enfin, moi je trouve que les films de comédie.
Ah oui, non, mais c'est vrai que.
Oui. Enfin, moi c'est bien ce que j'aime beaucoup.
Et oui, on peut dire que c'est un grand cinéaste, mais pas un grand metteur en scène, je suis d'accord.
Oui.
Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de. Alors que Prémédia, au contraire, parfois il n'y a que ça. Ça, c'est vrai, il est souvent pas très lucide, hein, surtout quand il est devenu producteur sur les scénarios et tout. Et par contre, lui, il y avait certains sujets où ça marchait formidablement et les films tiennent le coup et les autres. Par exemple, j'avais bien aimé. À la sortie, j'avais bien aimé son Saint-Jean, mais j'avais revu là, quand on préparait le nôtre, ça a très, en dehors de Saint-Cybert qui reste. Le reste, c'est consternant.
C'est que c'est un film curieux.
Curieux, mais quand même laborieux.
Moi qui arrive à peu près à suivre quand même les films en anglais, là j'ai trouvé que je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, parce que c'est assez curieux. Ces rêves ou ces cauchemars du roi, je m'en rappelle plus très bien, ça le réapparaît.
Oui, c'est la pièce de Bernard Shaw, c'est le dernier tableau, sauf qu'il a mis, il a fait comme, comment dire, comme point de départ et motif tout du long, ce qui est le dernier tableau de la pièce de Bernard Shaw, c'est-à-dire le cauchemar de Charles VII.
Mais dans les Jeunes d'Arc, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le roi Céline. Je trouve
c'est quand même Claudel et
Claudel.
Oui, mais moi j'en ai un très bon souvenir, je n'ai pas vu tous les
époques. C'est un film étonnant parce que la couleur chez Rossellini c'est rare. Il y a une couleur complètement fantastique.
C'est surtout, c'est aussi parce qu'il avait tourné sur un procédé épouvantable, je crois, qui fait que c'est. Enfin, ça dit, on peut dire la même chose pour Johnny Guitar et le tricolore.
Moi, je trouve que ça devient très beau. C'est un peu écaillé, comme ça, pastel écaillé, quand
même. Non, surtout, lui, ce qui lui plaisait, c'était. Enfin, il avait. Bon, je crois qu'il avait filmé parce que c'était. Il devait y avoir une. Je ne sais pas s'il y avait déjà des télévisions à l'époque, mais enfin, il avait dû. Voilà. Mais ce qui lui plaisait d'avoir fait la mise en scène, c'est d'avoir changé complètement les.